simplement 30% de la nourriture produite dans le monde vient de grandes fermes. Vous vous rendez compte? Seulement 30%. Les 70 autres pourcents viennent de petites fermes. Et c'est pourquoi je crois que la biodiversité que offrent ces petites fermes nous permettront d'arriver à la sécurité alimentaire.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement. Si vous êtes sur la route tranquillement en migration du côté des massifs divers et variés, eh bien prenez votre temps, c'est au de mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement. Avec Anthony Thomasson et Martin Guénard à la technique et assisté de Jérôme Boulet, sans oublier l'ami Albert Houck, c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Et ceci va commencer par une petite humeur, les oies et les abeilles. Allez, au parloir, qui a dit que notre pays était réfractaire à l'innovation ? Alors c'est sans doute pour faire cesser de tels ragots infondés que notre ministre de l'écologie a récemment choisi la voie de l'originalité. Voyez plutôt et parlons de la chasse. Jusqu'à présent, ses prédécesseurs s'étaient contentés de prendre des arrêtés en contradiction avec les directives européennes, arrêtées qui en particulier prolongeaient la chasse à l'oie sauvage au mois de février, alors que ce canardage est censé s'arrêter en janvier, fin janvier. Et ben la chasse, si vous voulez, c'est comme les soldes, hein, y a toujours des prolongations. Mais cette année, même si le cessez-le-feu a été officiellement fixé au 31 janvier, bien une variante est apparue. C'est tout simple, hein. Comme les chasseurs ont annoncé qu'ils ne respecteraient pas l'interdiction, Ségolène Royal a demandé au directeur de l'Office national de la chasse de ne pas verbaliser les contrevenants jusqu'au 9 février. En quelque sorte, le braconnage devient une activité sinon légale, du moins implicitement encouragée par un ministre qui, en la matière de politique, n'a rien d'une loi blanche et qui prône le pragmatisme face au lobby de la gâchette qui démanche. Bref, la réalité du terrain avant toute chose. Et là, le ministère joue en tout cas ici un bien étrange jeu de loi. Oui, et de loi, donc la bestiole au non-respect de la loi, il n'y a probablement que l'épaisseur d'une plume de palmipède. La loi n'est décidément pas la même pour tous, surtout quand les élections cantonales se profilent. Ah bah oui, c'est comme ça. Des élections qui pourraient bien se jouer sur un coup de dé et dont les oiseaux migrateurs feront fatalement les frais. Bon, maintenant, entre le gouvernement et les écologistes, toute cette affaire ne risque-t-elle pas de dégénérer en conflit d'oie? Allez savoir.
Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée.
Alors évidemment, c'est d'autant plus dommage que d'autres actions comme la prime kilomètre vélo pour les déplacements domicile-travail, l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphant dans la salle des ventes, j'en ai parlé la semaine dernière, les mesures pour arrêter la dieselisation de nos poumons, la labellisation des territoires énergétiques sont, elles, des mesures tout à fait positives prises par la même ministre et donc le gouvernement. Et alors les abeilles, maintenant je vous ai dit après les oies, les abeilles. Eh ben, on savait les abeilles mal en point, on vient d'apprendre qu'elles se sont fait un nouvel ennemi, oui. Ah bah l'abeille, elle est comme ça, il faut qu'elle se fâche avec tout le monde. Alors doit-elle faire face à un nouveau frelon, varroa, nosema, parasite sournois autant qu'inédit? Pas du tout. Le nouvel ennemi, c'est le sénateur. Parfaitement, le sénateur qui, à l'inverse des abeilles, voit ses populations enregistrer une certaine stabilité, voire un léger rajeunissement, si si. Le sénateur aurait donc pu, le 4 février dernier, interdire les néonicotinoïdes qui contribuent, même si c'est pas la cause unique, on est bien d'accord, à l'effondrement des colonies de butineuses. Il n'en a rien fait, car c'est sur le score sans appel de 248 voix contre 64 que l'interdiction d'utiliser cette famille de pesticides proposée par le sénateur écologiste Joël Labbé a été rejetée par le Sénat cette semaine. Il faut dire que les sénateurs PS ont voté contre cette interdiction à la quasi-unanimité. Il faut rappeler que M. Le Foll, ministre de l'Agriculture, converti à l'agroécologie, lui, il soutenait, non pas les néonicotinoïdes, mais un petit peu l'inverse. Alors n'allez pas dire après ça que l'on ne prête qu'aux ruches. Oui, c'est amusant. Bon, alors c'est sûr, les sénateurs ont déjà fait beaucoup pour les abeilles, puisque les jardins du Luxembourg hébergent des ruches depuis 1856. Mais sans doute, ne toujours convaincus d'œuvrer dans l'intérêt général et certainement pas pour le lobby de la chimie ont-ils considéré qu'il n'était pas nécessaire d'en faire davantage pour cette classe ouvrière volante? Et puis les mêmes sénateurs, maires dans leur commune, doivent avec une sincérité émouvante, mais vraiment, installer, inaugurer des ruchers pour ces réfugiés chimiques qui dépérissent dans les champs devenus un long printemps silencieux sans nourriture. Alors on veut bien accueillir quelques réfugiés malmenés par les pesticides, mais de là à s'attaquer au fond du problème, il y a tout de même un abîme. En tout cas, pour le rapporteur de ce projet de résolution, Joël Labbé, je le rappelle, qui n'aboutira donc pas à une révolution des pratiques agricoles, eh bien la messe est dite.
CO2 Mon Amour, Denis Chessou, sur France Inter.
Et donc avant de retrouver Vandana Shiva, avec grand plaisir, on va retrouver Fabrice Nicolino, qui est journaliste, qui est lanceur d'alerte, qui est venu plusieurs fois, bien sûr, dans ses émissions, avec des bouquins polémiques. En général, ça chauffe de tous les côtés quand il sort un livre. Et alors, cher Fabrice, vous étiez dans les locaux de Charlie Hebdo, donc il y a un mois, donc le 7 janvier. On vous a mitraillé les jambes, on voulait vous appeler. Bonjour Fabrice.
Bonjour Denis, bonjour.
Alors Fabrice, on a envie d'avoir bien sûr de vos nouvelles. Quand on dit « comment allez-vous », ça prend tout son sens.
Oh, écoutez, je suis vivant, je crois que c'est la chose la meilleure que je puisse dire après ce qui s'est passé. Je suis vivant, je suis conscient, lucide, j'organise ma vie. Certes, je suis à l'hôpital pour un assez long moment, peut-être même un long moment, une question de nouvelles opérations, mais l'un dans l'autre, je suis heureux. Évidemment, quand je ne pense pas à mes pauvres copains morts dans cette sinistre aventure.
Oui, parce qu'on imagine bien qu'il y a quand même certaines images qui doivent passer, repasser.
J'arrive pas en fait à m'en passer de ces images.
Oui. Touché aux jambes, juste, on va pas du tout rentrer dans les détails, mais donc il y aura une opération, une rééducation, on imagine assez longue.
Oui,
derrière.
J'ai eu deux opérations. Bon, j'ai été blessé à quatre endroits. On attend pour une nouvelle opération et une dernière peut-être après. Tout ça est compliqué, mais en tout cas, ça me cloue à l'hôpital pour peut-être encore un mois ou deux, je ne sais pas.
Alors, je sais, Fabrice Nicolino, que vous avez repris vos activités, vous regardez bien sûr l'actualité de l'environnement, et si nous allons du côté de la Bretagne, eh bien, là aussi, une autre forme de mobilisation que vous avez regardée avec intérêt.
Oui. Enfin, je reprends tout doucement mes activités. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la mobilisation en cours contre un projet d'extraction de sable marin dans la baie de Lannion face à la réserve des Sept-Îles. La réserve des Sept-Îles, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment miraculeux. Il y a notamment une île sur laquelle nichent chaque année entre 15 et 20 000 couples de footbassins. Donc c'est un lieu absolument prodigieux. Et chose extraordinaire aussi, c'est là, à peu près là, que la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, est née il y a un peu plus que 100 ans, 102 ans.
Avec le macareux comme emblème.
Exactement. Donc, parce que le macareux, à l'époque, était chassé de façon absolument répugnante par des gens venus de Paris en train. Donc, ce projet d'extraction de sable, visiblement, réunit énormément de gens. On m'a parlé d'une manifestation de 8000 personnes, ce qui est considérable en Bretagne, à Lannion. Et ça me paraît être une mobilisation d'un genre un tout petit peu nouveau. Peut-être que je me trompe, peut-être que mon optimisme parle, mais il me semble que se retrouvent dans cette bataille des gens qui sont bien sûr des écologistes, mais plein d'autres gens qui ont une vue de ce qu'est la mer, de ce qu'est le littoral, de ce que sont les courants. Et moi, ça me paraît très encourageant, vraiment. Et puis, bien sûr, vous imaginez bien que je suis de leur côté.
Fabrice Nicolino, on rappelle juste les enjeux. En fait, il s'agit d'extraire donc du sable par milliers de tonnes, mais les conséquences, c'est que ça peut avoir après une dérégulation des courants, une érosion des côtes qui est derrière.
Oui, c'est une fuite en avance. Et en fait, c'est un phénomène mondial. Il y a une sorte de boulimie extraordinaire dans ce domaine comme dans tant d'autres. Des activités humaines, il faut trouver du sable pour construire, pour bâtir, et en fait, ce faisant, on détruit en effet des équilibres qui sont très anciens, vous imaginez bien, les courants sous-marins dans la baie de Lannion ne demandent pas l'autorisation pour exister, et quand vous extrayez de façon brutale des milliers de tonnes de sable, eh bien il se passe des phénomènes qui sont imprévisibles, et en tout état de cause, les courants risquent de changer. Qui peut nous garantir à 100% que certains animaux ne partiront pas de la réserve des Sept-Îles? À mon sens, personne. Et donc, c'est un projet inquiétant, tout simplement. Et puis, le symbole est tellement puissant en cette année où la France s'honore d'accueillir un sommet climatique et parle beaucoup d'écologie. Je pense qu'il est navrant d'en arriver à devoir se battre pour empêcher un saccage pareil. Je suis vraiment à leur côté.
Tout un travail avec le peuple des dunes qui est derrière.
Exactement.
Très symboliquement, c'est assez curieux parce qu'on se dit qu'on met la tête dans le sable un peu comme une autruche avec cette fuite en avant afin d'extraire encore du sable pour des lendemains qui vont peut-être pas chanter.
Ben oui, je ne sais pas quel mot pourrait me venir à l'esprit. C'est vraiment une cécité organisée, volontaire, permanente, omniprésente. On ne veut pas voir les conséquences de nos actes, mais je pense qu'on approche du moment où de plus en plus de gens s'opposeront à des projets qui sont finalement ruineux. Il faut repenser la construction, le sable, c'est une matière précieuse. Bien sûr, on a pensé, comme avec la mer, que c'était tout à fait inépuisable et qu'on pouvait piocher dedans jusqu'à la fin des temps. On se rend compte que pas du tout. C'est un élément d'un équilibre plus complexe, plus ancien. Et donc, avant de détruire, il faut réfléchir. Évidemment, ce n'est pas tout à fait au goût du jour.
Nous allons écouter, vous le savez, Vandana Shiva, que vous connaissez dans quelques instants, cher Fabrice. On vous souhaite le meilleur, on sait ce qu'il y a à vous souhaiter. Donc, une santé de reprendre très doucement. Et je pense que ça fait très plaisir à beaucoup de nos auditeurs donc, de pouvoir vous écouter, là, depuis votre lit d'hôpital.
Mais Denis, c'est vraiment un plaisir d'être venu vous parler. Franchement, ça me fait du bien, croyez-moi.
Grand merci, Fabrice. Allez, on vous fait la bise. À bientôt.
Salut, Denis. Salut. Ouais, la bise. Salut.
Voilà, donc on prendra des nouvelles de Fabrice régulièrement. Si vous êtes jeune, mais vous l'êtes toujours dans votre esprit, non mais je voudrais ouvrir encore plus, si vous voulez, cette émission sur toutes les initiatives, les actions que vous menez les uns et les autres. Donc, que vous soyez étudiant, que vous soyez déjà, je ne sais pas, dans le monde, dans une entreprise, dans une start-up, etc., mais en faveur de l'écologie et de l'environnement, eh bien vous m'écrivez sur le site de CO2 Mon Amour, nous écrire, voilà, le site, vous pouvez le faire sans aucune difficulté.
Chante un petit oiseau malin qui monte au ciel, qui plane et qui pique au-dessus des royaumes et des républiques. L'oiseau malin regarde et voit les monarques et leurs secrets qui lancent dans les palais d'État les ordonnances et les décrets. Master and servant de leur salon protégé n'entendent pas l'oiseau qui chante, n'entendent pas l'oiseau chanter, pressentant comme un danger. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a laissé au bord du chemin, rêveur. Masters and servants de leur bureau protégé n'entendent pas l'oiseau qui chante, n'entendent pas l'oiseau chanter, pressentant comme un danger. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a laissé au bord du chemin, rêveurs. La colère monter dans leur cœur. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien. Chante, chante un petit oiseau malin qui monte au ciel, qui plane et qui pique au-dessus des royaumes et des républiques. Le monde de demain, il est dans leurs mains, les mains de ceux qui n'ont rien.
Jolie métaphore de ce monde de dingue, l'oiseau malin, l'oiseau d'à côté, les financiers derrière leur mur de verre qui ne voient rien. C'était Souchon et Woolsey, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Et oui, je vous le disais, donc beaucoup d'émissions là, qui vont arriver avec des initiatives. Donc si vous êtes jeune, parce que c'est à vous qu'on laisse quand même ce foutu monde, n'hésitez pas. Donc vous m'écrivez et puis on va monter ces émissions tout à fait régulièrement. Donc sur le site de CO2 Mon Amour, vous trouverez donc
donc tout cela. J'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner au podcast, hein, y a pas de raison. Et maintenant, bah, écoutez, on va s'intéresser donc à cette femme, Vandana Shiva, donc militante écologiste indienne très très engagée. Un livre est sorti avec Lionel Astruc aux éditions Actes Sud pour une désobéissance créatrice. Et donc aujourd'hui, eh ben, Vandana Shiva, ça, si on remonte quelques années en arrière, eh bien, sa vie a basculé suite à cet événement, à ce désastre.
10 000 personnes hospitalisées, dont 2 000 dans un état sérieux. Ça se passe en Inde, dans le centre du pays. Une fuite de gaz dans une usine fabriquant des insecticides a littéralement décimé la population de la ville de Bhopal, qui compte 1,5 million d'habitants.
Il était 2 heures hier matin. Les 500 000 habitants de Bhopal dormaient et c'est en silence que la mort s'est abattue sur eux. Rien ne laissait prévoir la catastrophe. La plupart de ces gens ignoraient même jusqu'à l'existence de la cuve de 45 tonnes de produits toxiques, enterrée au milieu des faubourgs de la ville, pratiquement à côté d'eux.
Donc il y a eu cet événement en décembre 1984, donc il y a eu Bhopal, et puis quelques années après, en mars 1987, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes dans une petite commune du Chablais qui s'appelle Bogève, et là, Vandana Shiva, vous étiez une scientifique anonyme à l'époque, et vous assistiez à un séminaire organisé par une fondation suédoise qui était consacrée à l'impact des biotechnologies. Alors, vous étiez en petit comité, on ne se méfiait absolument pas de vous, il se trouvait que vous étiez en train de travailler sur la violence de la production alimentaire, sur les conflits liés aux ressources. Et puis, il faut dire que ces entreprises de biotechnologie, à cette époque-là, c'était des petites boîtes, hein, c'était des petites entreprises. Et au cours de ce séminaire, vous entendez les dirigeants donc, qui disent « Faut contrôler les graines, faut avoir des brevets, grossir, investir le marché international. Pour cela, nous devons passer des traités internationaux, donc faire du lobbying. » Et alors, quand vous avez entendu ça, là aussi, votre vie a basculé. Parce que derrière la graine, il y a la souveraineté qui en découle. Et on peut dire que vous avez vu, on va dire, le loup entrer dans le champ de semences et d'OGM avant tout le monde.
Donc au début des années 80, ces entreprises biochimiques se rendent compte qu'elles peuvent remporter d'énormes profits à travers ces graines. Ces graines, si elles arrivent à les breveter. Alors, la porte qui permet d'entrer donc, dans ce processus de brevet, c'est donc la biotechnologie et de pouvoir passer par un système d'ingénierie. Et donc, par exemple, il y avait l'histoire de pouvoir faire pousser des plantes sur la Lune, enfin, toute une politique. Et ce qui était, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait le soja, le coton et deux autres, en fait. Et il fallait trouver, en fait, une graine qui puisse être résistante à certains insectes, certaines mauvaises herbes. Mais dans le processus qui a amené à pouvoir créer, en fait, ces graines, eh bien, ils ont pu récupérer 65% des brevets sur ces graines.
Push for GM corn and soya.
Alors, par exemple, toute cette politique sur ces graines modifiées hybrides portant sur le soja, sur le maïs, ont complètement dévasté l'Amazonie et les cotons, le coton modifié, a provoqué le suicide de nombreux fermiers en Inde.
Qui se suicidaient en buvant ces fameux pesticides dont ils étaient les victimes, quoi.
Exactly. Most
oui, vous avez tout à fait raison. Et donc, ces fermiers dont je vous parlais, ces fermiers qui, du coût des graines, du fait du coût des graines, étaient vraiment menés au suicide, finissaient par, en fait, par boire cette substance. Donc, vous voyez, c'est un cycle infernal. Et, mais quand je parle de toxicité, je ne parle pas seulement d'une toxicité physique, je parle aussi dans les connaissances, c'est-à-dire que vous modifiez totalement le cycle de connaissances. Vous réduisez aussi cette variété qui nous est offerte. Vous jouez avec les molécules, vous jouez avec les gènes, et en fait, lorsque vous modifiez le gène central d'une plante, vous modifiez totalement sa façon de fonctionner, vous modifiez sa complexité, vous changez sa façon de se développer en pleine liberté. Et en fait, au final, vous avez des mauvaises herbes, vous avez des insectes qui deviennent résistants à ce type de substance. Lorsque vous jouez avec la graine et vous arrivez à avoir des brevets, ce qui au final est totalement un mensonge puisqu'ils reprennent quelque chose qui a déjà été inventé. Ils n'ont rien inventé, ils reprennent et ils le font leur.
Clauses in the WTO
Alors, notamment lorsque l'on a revoit ce qui a été décidé au sein de l'OMC, eh bien, on se rend compte qu'ils ont ouvert la porte à cette politique de brevetage. Et donc, moi, j'ai décidé, et j'en ai fait ma vie, j'en ai fait mon combat, de pouvoir créer 120 banques de graines, mais aussi de pouvoir aussi tirer ce voile de mensonge et de pouvoir expliquer qu'effectivement ces brevets n'avaient rien à voir avec une invention. Voilà, c'est-à-dire que eux, en contrôlant les graines, ils veulent contrôler notre alimentation, et en contrôlant notre alimentation, le but final est de contrôler l'humanité. Et donc c'est pourquoi je crois que la liberté des graines est essentielle au développement.
Votre génération doit changer cette mentalité. Si nous réussissons à changer les mentalités, nous arriverons à protéger durablement, pas seulement l'environnement en Inde, mais aussi la jeunesse, la jeune génération.
À l'heure actuelle, la banque de semences nous apporte beaucoup d'avantages. Beaucoup de personnes y sont employées. S'ils le veulent, les villageois n'ont pas besoin de conserver les semences chez eux. Au moment où ils n'en ont plus, ils peuvent venir les chercher à Navdanya. Quand les gens consomment leurs légumes, ils ne récupèrent pas forcément les graines. Ici, ils peuvent trouver toutes sortes de semences, moutarde, épinards, fenugrec.
Vandana Shiva, votre organisation Navdanya apporte une alternative à l'agriculture intensive. Et ce mot, donc Navdanya, signifie neuf graines. Qu'est-ce que cela symbolise dans la souveraineté alimentaire, ces fameuses neuf graines donc, en Inde ?
Well, nine seeds
Alors,
is a symbol of diversity.
C'est d'abord un symbole de diversité, de variété. Après neuf, so on passe à 1-0. Donc neuf, c'est vraiment le chiffre que vous pouvez atteindre le plus élevé. Mais aussi, Navdanya signifie cadeau. Nouveau cadeau. Et lorsqu'on parle de cadeau, on parle du cadeau de la diversité, comme celui aussi de pouvoir avoir ce que nous avons sous la main. Parce que l'époque que nous traversons est une époque d'industrialisation de tous les cadeaux que nous font la nature, l'eau, l'air, la biodiversité, la connaissance. Et en refaisant ces différents éléments nôtres, en allant chercher les graines, nous récupérons cette connaissance et nous la redonnons, nous la redistribuons. Et moi, c'est avec joie que je revois ces deux dernières décennies où nous avons tellement travaillé que nous avons permis en fait à des communautés de lutter contre ces politiques désastreuses. Et nous avons pu, vous savez, par exemple, dans certaines régions indiennes, on a lutté en fait contre ces différentes graines de riz qui, soi-disant, s'adaptaient au climat. Après le tsunami, nous avons pu finalement offrir des graines à ces agriculteurs qui se retrouvaient sans rien. Et pourquoi ? Et comment ? Et parce que nous avons lutté, nous avons sauvé ces graines, ça nous a permis de lutter pour la liberté de ces graines et la liberté de ces agriculteurs. Et c'est vrai que nous avons travaillé avec le Parlement européen pour justement faire que cette loi sur la propagation des OGM ne passe pas. Et pourquoi ? Parce que notre idée, c'est que nous essayons d'empêcher un contrôle total des graines. Par exemple, en Inde, nous n'avons simplement comme organisme génétiquement modifié le coton. Et je sais que la France a joué un rôle essentiel pour lutter et pour vraiment reculer le moment où les OGM pourraient rentrer en Europe. Et vous savez, lorsqu'ils ont passé plusieurs lois, lorsque l'on a voulu étiqueter et prévenir que ce produit contient des OGM, à quel point les lobbies de ces entreprises ont lutté pour que ces lois ne passent pas, mais elles sont passées dans plus de 60 pays. Et je pense que ça, c'est un travail essentiel que nous continuerons à mener.
Les agriculteurs ne peuvent pas dépendre d'une monoculture qui les expose trop aux aléas extérieurs. À Koh-i-Noor, 10 paysannes sans terre ont pu créer une pépinière d'arbres fruitiers et de cultures de biomasse.
Nous avons produit 60 000 plantes depuis février. Nous en avons vendu 20 000, soit un revenu de 60 000 roupies.
Alors aujourd'hui en Inde, plus de la moitié, on peut peut-être même dire dans le monde, plus de la moitié de la nourriture est produite par les femmes. Pourquoi les femmes sont les gardiennes des semences ?
I was asked in 19... 80s.
Dans les années 80, on m'a demandé de mener à bien une étude sur les femmes et l'agriculture au sein de l'Université des Nations Unies. Et j'étais très surprise lorsque j'ai vu le résultat. Nombre des femmes étaient celles qui étaient sur les champs, parce que, vous voyez, lorsqu'on voit l'imagerie, en fait, d'Épinal, de cet agriculteur moderne, derrière son camion, son tracteur, et avec son chapeau, on ne voit pas les femmes qui sont derrière. Et souvent, dans les fermes, de toutes ces fermes, les femmes sont celles qui s'occupent de toutes les graines, qui les sauvent, qui les transmettent. Et nombre, notamment, des cérémonies en Inde, des cérémonies du Nouvel An, passe par toute cette culture des racines où les femmes, en fait, dans des cérémonies longues, en fait, prennent des graines, les plantes, et choisissent celles qui seront les bonnes et celles qui seront utilisées pour l'année suivante. C'est elles qui choisissent les variétés, c'est elles qui vont les développer, et c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Et donc, si l'on comprend la nourriture et les graines de cette manière, je crois que c'est parce que le paradigme même de l'industrialisation et de cette patriarcat qui en fait est développée montre que il faut simplement continuer à développer cela, et on laissait les petites choses aux femmes, et on se rend compte que si les femmes n'avaient pas pris en charge les graines, pris en charge de nombreuses activités dans les fermes, n'en serions pas aujourd'hui où nous en sommes. Et si nous laissons simplement le profit nous diriger, eh bien, nous allons contre un mur, parce que, vous savez, parce que cette recherche du profit détruit la culture, détruit l'économie. Tous les pays, que ce soit la France, la Grèce, l'Inde, les gens sortent dans les rues, les gens manifestent, parce que les profits, les bénéfices qu'essaient de tirer les banques ou ces industries finissent par donner un modèle d'économie qui ne correspond pas aux besoins des êtres humains. Et être une mère, cela veut dire que nous serons celles qui vont dessiner l'économie, une économie de partage et conjointe.
Dans certains villages, nous avons remarqué que toute la communauté vient au bio. Tous les champs sont bio. Et pas seulement pour produire du coton, mais aussi du soja, des pois d'Angol, du millet. Cela représente 1520 villages, c'est donc une grande avancée.
Le maître mot, sans doute bien, c'est le mot donc autonomie, donc ne pas dépendre de ces différents poisons. Juste un petit rappel, en ce qui concerne l'Inde, ceux qui produisent donc ces matières premières alimentaires ne gagnent que 10% de ce que le consommateur dépense. Voilà. Ça parle aussi à des éleveurs qui nous entendent aujourd'hui, même si les chiffres ne sont pas exactement les mêmes. Et puis les Occidentaux se croient à l'abri d'une crise alimentaire. Juste rappeler qu'aujourd'hui, en Île-de-France, on a entre 3 et 5 jours d'autonomie alimentaire. Ça, on ne sait pas forcément. Alors heureusement, il y a maintenant des initiatives qui sont encourageantes, qui fleurissent un peu partout dans le monde. Et ça, on n'en parlait pas, donc il y a une dizaine d'années, Vandana Shiva. Et Paloma Boulmo, parce que vous assurez la traduction quand même.
D'abord, pour pouvoir y arriver, il faut pouvoir créer ces modèles de circuits beaucoup plus courts, avec une production écologique, biologique. Et bien évidemment, la nourriture qui est produite est bien meilleure, elle est délicieuse. Lorsque les gens ont cette souveraineté sur l'alimentation, ils se sentent impliqués. Vous savez, 50% des gens sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans l'économie alimentaire. Et vous savez, un système qui produit des poisons, qui produit des OGM, nous dit qu'en vendant, vous savez, ils vendent dans les supermarchés. Par exemple, vous avez la grande entreprise Walmart avec plein de camions qui transportent et qui polluent en transportant les biens. Alors que dans un circuit beaucoup plus court, vous avez des restaurateurs, vous avez des consommateurs, vous et moi. Vous avez donc un circuit beaucoup plus court. Vous pouvez avoir des écoles, des hôpitaux, des citoyens, une communauté qui s'implique. Donc, beaucoup moins de pollution au final. Et ça, c'est l'économie comme elle devrait être. La vraie économie. Et l'économie qui passe par une agriculture biologique. Et je pense que cette économie est celle de l'avenir.
Nous avons en fait un système chez nous en Europe qui n'incite absolument pas à cela aujourd'hui. Donnez-nous quand même des exemples pour dépasser, on va dire, le fossé entre économie et écologie. Dans cette émission, tout ça, on le sait par cœur. Mais ça ne va quand même pas de soi pour nos dirigeants.
Je crois que pour pouvoir réduire ce fossé, la première étape serait de dire que les racines en sont les mêmes. Au final, l'écologie est peut-être le soleil en fait du foyer et l'économie veut dire simplement la gestion de, cette, de ce foyer. Donc évidemment, bien évidemment, le foyer devrait être... si vous gérez sans vous tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur, ça ne marche pas. Et il faut voir en fait comme si la planète, la Terre, était notre foyer, le dernier foyer, et qu'il doit être bien géré. Et l'on voit à quel point les foyers sont détruits parce que les gens n'ont plus d'emploi, mais également n'ont plus cette sécurité alimentaire. Le deuxième niveau auquel nous pouvons réunir l'économie et l'écologie, c'est bien évidemment dans le domaine de l'alimentation. 75% de tout ce qui porte et qui détruit la planète vient de tout ce système de production alimentaire. Et cela ne produit que 30% au final de la nourriture, ce que je vous disais au départ. Si nous voulons en fait passer de 30 à 40%, nous allons finir avec une planète qui sera morte. Il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus de gens, il n'y aura plus d'affaires, il n'y aura plus de négoces. Il faut donc reconnaître que l'écologie est la fondation même de l'économie et elle... et que nos systèmes dépendent de la façon dont décidons de nous alimenter. Et donc, nous devons nous voir à quel point nous dépendons de la diversité climatique, du soleil, de la terre et de l'eau. Il faut, à mon avis, comprendre que si l'on passe par l'écologie, il y a une véritable ressource, une véritable richesse, une richesse de naturel, une richesse pour la santé des gens, et aussi une richesse pour un bien-être généralisé, et également une véritable richesse parce que nous passons à une véritable démocratie. Et quand je parle de la planète, je parle de la démocratie. Parce que ce contrôle sur la graine, cela passe par une dictature. C'est une dictature, c'est une intolérance qui va contre les démocraties.
Vous êtes bien sur France Inter, CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement. On va poursuivre ce voyage avec Vandana Shiva. Et même, on va s'offrir Jean-Marie Pell, que nous allons arrêter dans sa voiture tout à l'heure. Hein, Jean-Marie, il écoute. Pour avoir une petite réaction aussi de la musique. Bah oui, on aime ça sur Inter. Et puis ça, vous le connaissez. C'est Gigi, Cal, non, Cal, allez, hop, City Girls sur France Inter.
City Girls, they all right. They just want you for the night. When the morning comes at dawn, City Girls, they all gone. No daylight. Said, when you feel that you've been had, only nighttime brings a prize. City girl, she thinks it's right. Girl like you can't afford no diamond rings or all those other fancy things. It's only one thing I can give, a song down where you live. I'll sing to you, hear the sound. City girl, please stay around.
City Girls sur France Inter, CO2 de mon amour, c'était Gigi Kell. Ah bah oui, vous pouvez retirer à l'arrière de la voiture les écouteurs, les enfants, on passe à la bonne musique là aussi. Bah oui, il n'y a pas de raison. Nous allons retrouver donc Vandana Shiva, donc l'ami public numéro un des multinationales agroalimentaires et semencières, on s'en doute bien un petit peu, avec sa détermination et son opiniâtreté souriante. Le site à votre disposition, c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement décrié, c'est comme Pierre Rabhi, etc. Donc ne vous gênez pas, vous avez le site de CO2, si vous souhaitez donc converser entre vous, aucun problème. Et alors, Vandana Shiva, donc, deux combats sont très intéressants, vous en avez mené beaucoup. Un contre PepsiCo, producteur de chips, et un autre contre Coca, qui avalait de l'eau potable en masse.
Let me begin with the Coca-Cola.
Si vous le permettez, je vais commencer avec le Coca au Kerala. J'ai été invitée en 2002 par un petit village qui s'appelait Platimala, où les femmes m'ont demandé de venir les voir. Parce qu'elles organisaient des manifestations contre Coca-Cola. Je ne connaissais pas le village, je ne savais pas pourquoi il y avait ces manifestations, et je suis simplement allée pour apprendre et par curiosité. Et je suis arrivée dans ce tout petit village avec des centaines de femmes qui manifestaient et 500 policiers qui les entouraient. Et je me suis dit, bon, il faut aider ces femmes. Pourquoi ? Pourquoi elles étaient là, elles étaient dans les rues ? Ben simplement parce que Coca-Cola, en fait, était en train de pomper les nappes phréatiques plus de 1,5 million d'eau par jour, de mètres cubes par jour. Et ensuite, ils remettaient, en fait, dans ces nappes phréatiques des métaux lourds. Et les femmes devaient marcher jusqu'à à peu près 20 km pour aller et pour apporter de l'eau potable dans leur foyer. Et elles se sont dit un jour, mais pourquoi devons-nous marcher si loin ? Et elles ont décrété qu'il fallait que l'usine ferme. Et donc, elles se sont placées devant les grilles d'entrée de Coca-Cola et elles ont commencé à s'asseoir et à dire qu'elles ne bougeraient pas. Lorsque moi, je me suis rendue dans ce village, je me suis dit qu'il fallait absolument se lancer dans une action légale, qu'il fallait réveiller les hommes politiques et nous allions là-bas, nous allions les aider, ces femmes, chaque mois. Et il y a eu d'ailleurs un forum social à Bombay en 2004. Et en 2004, nous avons donc pu aussi fermer cette usine. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la seule usine que nous avons pu fermer, mais nous en avons fermé quatre autres en Inde. En ce qui concerne l'autre histoire, l'histoire de Pepsi, alors c'est vrai que Pepsi, non seulement vous offre des boissons qui sont toxiques, mais il vous offre aussi des chips qui ne sont pas très bonnes. C'est la différence entre les deux entreprises. Alors donc, Pepsi a voulu vraiment acheter toutes les petites entreprises locales et toutes les petites fermes. Dans la zone où ils se sont implantés, où vous allez, vous verrez qu'il y a des petites sacs aluminium, vous voyez, des petits sacs de chips. Hein? À les agriqueurs qui auparavant vous faisaient des samosas, donc des plats typiques, ou vous offrez du thé, maintenant on mange ces chips emballés dans du papier aluminium. Et il dit voilà, finalement nos fermiers, les politiciens autour, ils sont très contents, ils ont beaucoup plus de travail. Et moi j'ai étudié et je me suis rendu compte que vraiment pour la somme que paye un consommateur pour ces petites sacs de chips, et bien au final, ce que va dans la poche de l'agriculteur, c'est 2% du prix total. Alors qu'au départ, il y avait une économie locale qui développait de nombreuses variétés de nourriture et il y avait plein de types de nourriture à manger qui étaient très différentes, très locales et très traditionnelles. Et maintenant, la chips a tout envahi. Et la chips de Pepsi a complètement détruit l'économie de ces agriculteurs qui ne produisent plus que des pommes de terre, comme vous aurez compris.
Cette volonté de passer au bio touche d'autres secteurs que la production du coton. Kohinoor, dans le district d'Adilabad, est un des 6 villages qui a adhéré à un programme de construction de retenue d'eau. Il y a 2 ans, ce lac n'existait pas. Désormais, les agriculteurs peuvent aussi pêcher, vendre leurs poissons ou les consommer. Ils utilisent aussi l'eau pour irriguer.
On garde l'eau pour augmenter la productivité de la récolte. Nous utilisons cette structure pour contrôler l'érosion du sol et maintenir la fertilité du sol.
Vandana Shiva, j'aimerais juste revenir sur votre histoire personnelle. Quel était votre lien avec la terre et est-ce que chez vous on pratiquait l'autonomie alimentaire ?
Le lien avec la terre, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Vous savez, mon père était un garde forestier. Et c'est vrai que je suis née en pleine forêt. Et ma mère, qui est devenue une réfugiée et qui, au départ, était une fonctionnaire, a finalement décidé d'être une agricultrice lorsqu'elle a été déplacée, elle s'est installée. Et c'est vrai que nous étions entre la forêt, mon père travaillait, et la ferme où ma mère, elle aussi, cultivait. Et c'est vrai que la nature a été, dès le départ, mon terrain de jeu et là où j'ai tout appris. Ma mère avait donc cette ferme où nous produisions notre propre nourriture. Et c'est vrai que ma famille était très consciente, en fait, de manger sain. Et manger toujours selon ce dont on avait besoin. Il n'y avait pas de gâchis. C'est vrai que nous avions, par exemple, des chèvres pour le lait et nous avions des légumes. Et nous avons grandi avec cela autour de nous. Et c'est ce qui nous a donné cette force. Et ma mère avait son propre jardin, même là où nous habitions en forêt. Et nos parents nous encourageaient. Ils disaient, voilà pourquoi vous n'avez pas une petite parcelle, un petit lopin de terre, vous aussi, vous pouvez cultiver vos propres légumes. Et puis donc, déjà très jeune, on avait notre petit lopin de terre et on cultivait et cuisinait notre propre alimentation.
Et votre père vous emmenait donc en forêt. Donc vous avez été nourri aussi donc par ces forêts nourricières. Et après, un de vos premiers combats, vous aviez donc 21 ans, c'était de vous retrouver aux côtés de femmes qui ont défendu véritablement leur forêt.
Comme je vous l'ai dit, comme j'ai grandi dans cette forêt himalayenne et que j'ai vu la forêt, j'ai vu des rivières s'écouler. Lorsque je suis rentrée et que j'ai revisité ces ruisseaux, ces sources, j'avais vu que les sources étaient taries, qu'il n'y avait plus d'arbres là-haut, avant il y en avait d'autres, et que la nature avait vraiment souffert ces années où j'avais été loin. Et c'est là où j'ai commencé à m'inquiéter. Et j'ai entendu parler du mouvement Chipko, qui sont en fait des femmes qui enlacent des arbres dans ma région. C'est-à-dire qu'elles venaient protéger des arbres. Elles étaient prêtes à sacrifier leur vie pour protéger en fait les arbres des bûcherons. Donc elles étaient entre les arbres et les haches. Et donc elles ont mené une lutte pendant plusieurs années et normalement ils ont pu en fait arrêter en fait cette coupe sauvage qui était menée dans cette forêt de l'Himalaya. Parce que ces femmes disaient, vous savez, ce ne sont pas des sources de bois. En fait, elles ne peuvent pas être des sources de revenus, ces forêts. Elles sont là pour nous offrir cette eau, cet air pur. Et c'est vrai qu'au moment qui a suivi donc cette lutte, il y a eu des déluges, il y a eu des inondations qui étaient liées en fait à cette déforestation. Et le gouvernement a enfin pris conscience qu'effectivement, il fallait protéger la forêt. Et moi, je suis tellement reconnaissante à ces femmes d'avoir lancé cette action. Et j'ai assisté à cette université de Chipko, et lors de cette université que nous avons créée, ces femmes qui n'avaient jamais été à l'école ont pu m'expliquer, m'ont appris tellement de choses sur le travail au sein des communautés, sur la défense de l'écologie. Et c'est vrai que Chipko, au départ, a été la base par la suite de toutes nos lois environnementales en Inde, il faut quand même le dire.
Alors, parlons pour terminer quand même de cet avenir et de ce que l'on voit. On sait que l'on est dans une bascule véritablement de société aujourd'hui. Et nous ne sommes pas dans la résignation. Qu'avez-vous envie de dire aux gens qui nous écoutent, aux jeunes générations aujourd'hui ?
Je crois que nous sommes arrivés à un moment tout à fait à part, notamment en ce qui concerne l'évolution de l'espèce humaine. Pour la première fois, nous sommes menacés, et ceci en raison de l'action de certains de ses membres. Ceux qui veulent un véritable changement, ceux qui veulent changer de direction et qui veulent passer de l'extinction à un véritable avenir, je crois que la première chose à faire est de se lancer dans une action constructive. Il faut prendre les décisions qui nous permettront d'arrêter ce changement climatique. Il faut également prendre les décisions qui nous permettront d'avoir une nourriture saine et de pouvoir garder les graines, et ceci à tous les niveaux. Bien évidemment, il y aura des tentatives qui viendront arrêter ce mouvement. Et c'est là où je pense qu'il faut que l'on s'arme de courage et que l'on écoute ce que disait Gandhi, que dès qu'il y a une superstition, eh bien, il faut suivre les lois, il a pratiqué en fait ce qu'il a fait tout au long de son action. Il ne faut pas, il faut lutter, il faut être actif. C'est-à-dire que, par exemple, contre l'apartheid, les gens ont lutté sans cesse. Et je crois que pour l'amour de notre terre et pour l'amour de nos enfants, nous devons avoir le courage de dire non, de lutter contre ces forces destructrices qui nous emmènent à un futur terrible. Je crois qu'il faut être résistant, mais il faut aussi être constructif. Je crois qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus être divisés. Vous savez, il y a des mouvements sociaux, il y a des mouvements féminins, il y a des mouvements de tout type, et je crois que tous ces mouvements ne doivent faire qu'un, devenir un magnifique mouvement qui viendront défendre l'avenir de notre terre et l'avenir de notre humanité.
Alors, on comprend très bien pourquoi vous êtes donc ami avec Pierre Rabhi. Offrez-nous, pour célébrer justement cette vie, peut-être un paysage ou un bien-être de nature qui vous est cher en Inde ou bien ailleurs.
Well, of course, my favorite landscape now
mon paysage favori à l'heure actuelle est ce qui était auparavant, vous savez, des terres sauvages qui offraient donc cette diversité proche du paradis, ce qui est devenu maintenant cette ferme de Navdanya. Et je me suis rendu compte, alors que les sols sur lesquels ont été lancés et ont été plantés, cette ferme de Navdanya étaient des terres infertiles. Je me rends compte à quel point on peut transformer les choses. Vous savez, les choses, les lieux ont des potentiels. Même si une terre est infertile et elle est complètement abandonnée, eh bien, vous pouvez créer quelque chose. Vous pouvez offrir une vie.
Sur
cette ferme, nous avons plus de 1000 variétés de récoltes. Nous avons 230 variétés d'arbres. Et mon idée, c'est de pouvoir continuer à grandir dans un écosystème. Et voilà, et moi, je le développe avant de mourir et de passer à une autre vie. Nous avons plus de 160 variétés de riz, 250 variétés d'herbes et de plantes. La majorité avait été détruite. Vous rendez compte. Et surtout, comme je vous disais, ces différents types de riz ont une valeur nutritive bien plus importante que ces riz qui sont les riz une seule et même espèce, une seule et même graine. Vous savez, j'ai fait mon doctorat en chimie, en physique chimie. Nous savons maintenant que rien ne peut être séparé, que tout est lié. Et que rien n'est fini et tout est possible. Chaque graine a son potentiel, chaque lieu a son potentiel, chaque personne a son potentiel. Et c'est à nous, de tout faire pour que ce potentiel devienne une vérité, et ce, dans tous les lieux et avec tous les gens. Et c'est ce qui fait que nous pourrons enfin être en paix avec nous-mêmes.
Alors je vous renvoie donc à ce livre pour une désobéissance créatrice et donc toute l'histoire en interview avec Lionel Astruc de Vandana Shiva aux éditions Actes Sud, au domaine du possible, en coédition avec les Colibris, ça ne va pas complètement vous étonner, avec évidemment Pierre Rabhi qui est derrière et qui est une amie de Vandana Shiva. Au revoir à vous Vandana Shiva.
Thank you. Thank you so much.
Merci beaucoup. Eh bien, il est là, il a écouté Vandana Shiva. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour. Alors, bonjour à tous.
Vous allez bien, nous sommes bien sur France Inter, c'est au de mon amour, vous le savez. Vous êtes en route parce que je crois que vous allez signer un bouquin. Votre dernier livre, là, Les plantes qui guérissent, qui nourrissent, qui décorent, aux éditions du Chêne, là, c'est ce qu'on appelle un beau livre, bien sûr. Parce que les moches livres se vendent très peu, mais les beaux livres, un petit peu, pas forcément beaucoup, mais un petit peu quand même. Vous avez écouté, Jean-Marie, donc Vandana, quelques réactions de votre part.
Quelle formidable femme, Vandana. Je l'ai rencontrée à Gênes, à un forum alternatif à un G7. À l'époque, c'était encore le G7. Elle m'avait beaucoup impressionné, de nouveau aujourd'hui, naturellement. C'est une icône. C'est une icône dans le combat pour la préservation des graines et pour le recul sur ce plan-là de la puissance des multinationales qui ont eu l'ambition folle de vouloir à elle seule nourrir le monde, et on sait que celui qui te nourrit, il t'a sous son entière dépendance. Donc c'est inacceptable, nous avons tous lutté contre ça. Je pensais, en l'écoutant, Gilles-Éric Serralini, le CRIGEN avec notre équipe autour de Corinne Lepage et Vandana, ben c'est d'abord le même combat. Je pensais aussi à Coco Pelli, qui fait le même travail chez nous, avec peut-être moins d'audience internationale, mais qui fait un travail tout à fait extraordinaire. Mais je pensais surtout que l'écologie, dans son essence même, est féminine. Voilà une femme. Les femmes portent la vie. On dit la vie, on dit la terre, on dit la nature, on dit la mer pour l'eau et la mer pour...
Oui, la mer dans féminin. Les...
Oui, ce sont tous des mots féminins. Et je pense que le rôle des femmes en écologie est extrêmement important. J'avais obtenu pour l'homme au naturé le prix d'électrice de Elle il y a maintenant une quarantaine d'années. Ce livre va bientôt reparaître bientôt. Mais je pense que le rôle des femmes est tout à fait important. Et puis ce qui m'a frappé aussi dans l'histoire de Pepsi et de Coca, c'est l'interrelation, Vandana en a parlé tout à la fin, entre des phénomènes dont on n'imagine pas qu'ils puissent avoir des relations entre eux. Quand je bois du Coca en Inde, j'assoif les femmes indiennes. Mais je ne le sais pas. Quand je téléphone sur mon portable, ce que je fais en ce moment même, je rends affreusement dépendants et malheureux les mineurs de l'Est de la République démocratique du Congo qui travaillent dans des conditions effroyables pour sortir le tantal dont on a besoin pour...
Et on en avait parlé, Jean-Marie, pendant qu'effectivement, essayez de ne pas trop bouger donc avec le portable, mais c'est vrai que derrière tout ça, on est sur le territoire des gorilles de plaine, et je crois qu'on avait été les premiers à en parler à l'époque, peut-être une petite dizaine d'années, et donc à chaque fois que l'on extrayait donc ce fameux tantal, et bah derrière tout ça, il y avait des animaux qui étaient de la viande de brousse, que sont ces gorilles de plaine, et ils ont été chassés aussi donc les uns et les autres, Jean-Marie, voilà.
Exactement, exactement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, notre mode de vie a des conséquences dramatiques sur la vie des pauvres. Et les pauvres sur cette terre sont majoritaires. Et quand on pense que les grandes multinationales ont ciblé ces pauvres-là pour les rendre totalement dépendants de leurs graines et de leurs pesticides, c'était une idée atroce à mes yeux. Et Vandana a lutté contre ces paysans qui étant rendu tout d'un coup complètement dépendant et sans ressources et dans une impasse totale, se suicider en buvant du Roundup. Enfin, c'est ce qui s'est passé.
Un chiffre qu'elle a donné, Jean-Marie, un chiffre qu'elle a donné, c'était au tout début, lorsque donc on a mis ça sur notre générique, mais ça c'est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a simplement, enfin, si j'ose dire, 30% des grosses fermes, des immenses structures qui nourrissent le monde, mais 70%, on va dire, des fermes beaucoup plus petites. Là, on parle au niveau mondial, on ne parle pas évidemment au niveau français, loin de là. Mais c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est-à-dire que là aussi, plus on aura une diversité, a priori, mieux ça marchera, qui est complètement à l'opposé du système actuel.
Oui, j'ai bien entendu ce chiffre, il est très impressionnant, et ces 70% sont dans le reste du monde, et pas seulement dans nos nations industrialisées, on pense toujours qu'elles sont le centre du monde. Et le réchauffement climatique, il en a été question, risque de modifier complètement les conditions de travail de ces agriculteurs, parce que les sécheresses, là où il fait déjà sec, et la pluie, là où il pleut déjà beaucoup,
seront accentuées,
pourront faire des dégâts considérables et réduire cette partie des productions agricoles. Donc, par contre, surtout à la fois.
Alors Jean-Marie, on va se laisser parce qu'on va vous laisser parce qu'on a bien compris que là en direct c'était pas forcément très très simple avec votre merveilleux portable et le gorille qui est à 4000 km de là. Moi je vais vous renvoyer, on en parlera un de cet ouvrage Jean-Marie, donc les plantes qui guérissent, qui nourrissent et qui décorent. Donc ça c'est aux éditions du Chêne. Et bien sûr on vous retrouve dans l'émission donc tout à fait régulièrement. Je tiens à remercier. Alors si je l'ai pas fait assez, Paloma Boulmo donc qui a assuré la traduction avec Vandana Shiva. Donc merci à vous, Paloma Boulmo, à Jérôme Boulet, notre assistant, Christophe Imbert qui réalisait l'émission, Albert Hook, Anthony Thomasson et Martin Guénard qui étaient aujourd'hui à la technique. Anne Gouzon qui nourrit les sites. Ah bon, le site, si vous voulez, donc il a marché, vous avez bien compris que le site de France Inter, il a marché sur trois pattes pendant un certain nombre de semaines. Maintenant, il est à trois pattes et demie, donc ça va quand même un petit peu mieux. Il n'est pas... Voilà. Mais bon, ça vient doucement. Donc le site, vous pouvez bien sûr laisser vos messages dessus. Nos initiatives jeunes, positives, n'hésitez pas, hein, parce que là, on va construire bon nombre d'émissions autour de ça. Donc vous écrivez aussi sur le site, CO2 Mon Amour. Et puis 01 56 40 40 35. La semaine prochaine, il y aura une ronde de copains journalistes, copains pas forcément d'ailleurs, enfin donc une ronde de journalistes avec différents thèmes sur la table. Ça devrait bouger, ça devrait, ouais, ça va swinguer avec des thèmes que nous ne connaissons pas encore. Vous aimez Émile ? Eh ben nous aussi.